Moi, je suis en train de au café oriental. J'ai réussi totalement ce qui
s'est passé. Moi, c'est l'île de Bombadi, au Katanga. Je pense qu'en combinant les deux, la vie de mes présidents trouvait une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs. Les coordinations de la société civile des Béni, Boutembo et Lubero au Nord Kivu ont adressé ce week-end une lettre ouverte au chef de l'État sur les massacres des civils dans cette province. Par ailleurs, il s'observe depuis plusieurs jours une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux autour de cette situation qui a enregistré plus de 1000 personnes tuées et kidnappées dans ces trois territoires depuis le mois d'octobre 2014. Certains observateurs estiment que cette affaire relance les débats sur la question de l'instauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 0 80 1 890 73 15 pour votre intervention en direct. Mais les débats, c'est également sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. André Mungu est à la mise en onde de cette émission réalisée et coordonnée par J.R. Lungembo. Julie Fezabongonda est à la gestion du standard et à la modération sur la page Facebook et Pierrot et la Magie. Alors, il y a le plaisir de vous présenter ces magazines sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux Auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Magie.
La question de l'instauration de l'autorité de l'État dans les territoires des Béni, Béniville, que ce soit aussi à Boutembo, Lubero, au centre de notre échange ces jours, c'est après plusieurs dénonciations autour de morts qui ont été enregistrées dans cette partie de la province du Nord Kivu en RDC. Plus de 1000 personnes tuées, des personnes kidnappées, des déplacés ont été enregistrées depuis le mois d'octobre 2014. Et à cet effet, bien sûr, les coordination de la société civile dans ces trois territoires a pu adresser au chef de l'État une lettre ouverte pour demander à ce que cette question soit considérée aujourd'hui comme une priorité. Mais également, la mobilisation a été observée sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours avec des hashtags sur Twitter, sur Facebook et plusieurs sensibilisations autour de cette question de Béni. Et plusieurs observateurs estiment que ceci relance les débats sur la focalisation de l'instauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. C'est la question au centre de notre échange. Nous avons associé à cet échange Juvenal Monobo, qui est député national élu du Nord Kivu, membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, et secrétaire permanent de la sous-commission forces armées, avec qui nous allons débattre de cette question. Mais la question est tellement importante que les débats sont très animés sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, mais aussi nombreux de ceux qui se sont inscrits pour intervenir en direct, comme vous, Japhet, qui est ici à Kinshasa, dans la capitale. Bonjour Japhet et bienvenue dans cet échange.
Bonjour Radio Capi, je suis une fois de plus très content d'intervenir dans l'émission Parole aux Auditeurs.
Et pour vous, comment on peut arriver d'une manière plus efficace à instaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays et protéger ainsi la population contre ce massacre?
D'abord, je salue l'honorable Juvenal Monobo qui intervient aussi sur le plateau. Et je voudrais souligner que je suis l'un de milliers d'internautes congolais qui avons choisi de pleurer avec nos frères et sœurs de Béni, ville où se déroule une horreur terrible, mais qui apparemment n'émeut encore personne. Et vous pouvez comprendre qu'en moins de 2 ans, plus de 1100 personnes ont été tuées, ce qui fait soit 60 personnes tuées par jour, par mois. Et c'est vraiment très triste de voir des femmes enceintes qui sont éventrées, des bébés qui sont mutilés, des atrocités de masse qui sont commises, des êtres humains qui sont ligotés, égorgés, et à la barbe du gouvernement de la République comme de la mission des Nations Unies en RDC. Je voudrais rappeler que notre pays abrite la plus importante mission des Nations Unies, la plus importante opération de maintien de la paix des Nations Unies dans le monde. Et récemment encore, les conseils de sécurité, en prenant la résolution 2277, avaient clairement dit qu'elle faisait de la sécurité, de la protection des civils une priorité dans le cadre du mandat de la MONUSCO. Et cela signifie que les Nations Unies se sont engagées à deux choses principalement. D'abord, à empêcher que des groupes armés commettent des violences de violence contre la population, mais aussi de neutraliser au moyen de la brigade d'intervention. Nous avons l'impression, comme les populations de Beni Butembo, comme si cela s'est fait avec, entre guillemets, la complicité des Nations Unies. Mais je reviens à l'essentiel, c'est que depuis 15 ans, on nous a habitués à un discours, la restauration de l'autorité de l'État. C'est un discours de passé. Depuis 15 ans, vous pouvez comprendre que chaque acte qui est posé de puissance publique, c'est un acte de restauration de l'État. De quel État, de quelle autorité parle-t-on? Lorsque on sait que c'est au gouvernement de la République qu'il incombe au premier chef, un, de protéger les civils se trouvant sur les territoires nationaux, deux, c'est au gouvernement de la République qu'il incombe la responsabilité de protéger la souveraineté et l'intégrité du territoire. On ne peut pas comprendre que le gouvernement de la République, dans sa façon d'aborder les problèmes, considère ces graves violations de droits humains comme de simples actes de violence communautaire. Il ne s'agit pas de violence communautaire, il s'agit essentiellement d'un conflit armé international. Il s'agit de mettre fin à ces massacres de milliers de nos citoyens. L'État, c'est l'armée, et l'armée fait partie des attributs de la souveraineté. Or, dans un État où l'armée n'est pas professionnalisée, on ne peut pas compter sur l'intervention de l'armée. Pire encore, lorsque vous lisez, par exemple, les rapports du groupe des experts des Nations Unies sur la RDC, ces rapports parlent du rôle des officiers congolais dans le massacre à Beni. C'est très triste. On a même cité le nom d'un général qui revient souvent, le général Akili Mindos. Mais si de tels officiers, s'il est avéré que ces officiers-là sont les auteurs participent à ces massacres-là, moi je demanderai, je préconiserai plus simplement que le ministre de la Justice, qui s'illustre désormais dans un pouvoir d'injonction, qu'il fasse désormais la même chose, qu'il demande à l'auditeur général des FARDC d'y donner injonction pour qu'il enquête, qu'il établisse des responsabilités, que les juridictions militaires se saisissent de la question et interviennent sur terrain. Autrement, on ne comprendrait pas que c'est tous les gouvernements qui restent indifférents. Comme je suis parmi l'un des internautes, je peux vous dire que dans les réseaux sociaux, on entend des gens qui sont en train de réclamer les silences coupables du chef de l'État. Le président doit s'exprimer. On veut l'entendre sur cette question. Ailleurs, ce qu'on voit, c'est que lorsque un seul citoyen tombe sur un terrain de guerre, quel que soit l'endroit où il se trouve, c'est le président de la République qui va le chercher. Pourquoi chez nous, 60 personnes tuées par mois, 1100 personnes tuées en l'espace de deux ans, personne n'intervient, on fait comme si de rien n'était. Non, cette histoire doit cesser et on a tous décidé sur Internet de briser ces silences. Pour sensibiliser la communauté
internationale,
on appelait à la responsabilité.
Voilà.
Pardon?
Oui, merci beaucoup. J'appelle. D'ailleurs, vous avez évoqué le rôle de la MONUSCO. Hein. Vous auriez souhaité voir la MONUSCO aller encore plus dans cette résolution 22-77 en ce qui concerne la protection des civils. Vous auriez souhaité voir l'armée nationale s'est lancée vraiment dans des grandes opérations, les opérations des grandes envergures. Vous vous rappellerez d'ailleurs qu'il y a une opération qui a été lancée les 18 mai par les forces de la MONUSCO qui sont en train d'épulonner des rebelles ougandais à Def, à Beni, au nord Kivu avec les FARDC. Ça a été annoncé dans le point de presse hebdomadaire des Nations Unies. C'était hier, mais vous auriez souhaité qu'il y ait des choses comme ça, des actions puissent être des grandes envergures, mais d'un côté aussi, que la justice puisse faire le travail. Et là, en évoquant le rapport des Nations Unies, rappelons quand même que ces rapports, ça a été rendu public ainsi, quelques éléments du rapport par une chaîne, un média périphérique, en attendant peut-être sa publication officielle, et les uns et les autres qui ont été cités dans les rapports, il y en a qui ont dit qu'ils n'étaient pas impliqués, il reste encore que le rapport soit publié officiellement, et puis aussi qu'il y ait peut-être une perspective, une autre réaction au niveau du pouvoir public, mais pour vous, vous estimez qu'au-delà de la responsabilité des autorités congolaises ainsi que de la justice, il doit quand même avoir aussi un engagement public, que ce soit la dénonciation, parce que là vous évoquez les cas de l'indifférence que vous notez du côté des officiels congolais. Rappelons quand même que dans ces actions qui sont menées sur les réseaux sociaux, il y a aussi des compatriotes congolais qui ont initié une pétition pour pouvoir récolter au moins 10 000 signatures afin de demander à la CPI de pouvoir mener des enquêtes sur cette question de massacres qui sont commis à Beni. Merci beaucoup, Japheth, de cette intervention et de votre engagement pour cette situation. Adrien, vous êtes à Kananga, au Kasaï Central. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Pierrot et la Mégie, bonjour à l'honorable Juvenal.
Et on sait que dans des cas comme les cas que nous débattons en ce moment, il y a beaucoup de fois des questions qui sont très complexes hein, autour de ces groupes armés qui sont en train de travailler dans des forêts, des fois autour des ramifications avec cette situation de guerre qui a longtemps duré. Alors, dans tout ça, la question c'est comment arriver à instaurer parfaitement l'autorité de l'État dans cette région. Quand on regarde aussi le soutien des internautes qui ont initié la pétition, c'est qu'ils estiment que l'instauration de l'autorité de l'État doit aussi s'accompagner des actions de la justice pour arriver vraiment à consolider les travaux et protection et protéger plutôt les populations dans cette zone. Quel est votre point de vue, M. Adrien?
Oui, merci Pierrot de la parole que vous m'accordez. Je compatis d'abord avec mes compatriotes de Beni. Vraiment, je suis vraiment très déçu en voyant comment est-ce que nos amis nous quittent comme ça, au vu et au su de tout le monde. Je pense, Pierrot, que c'est un problème très complexe, hein, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, on ne devrait pas traiter la question avec beaucoup de passion, parce que premièrement, avant de mener des enquêtes, avant de poser les bases pour les solutions, il faut d'abord se demander qui sont à la... Donc, de tous ces massacres interminables à cette partie-là du pays, parce que ça fait quand même longtemps, c'est quand même une mort de trop. Comment on ne parvient pas à responsabiliser, à dire les groupes donc armés qui est à la base de tous ces massacres-là? Parce que lorsque vous suivez même les informations, ce sont des tâtonnements. On vous dit peut-être ce sont les ADF. On dit non, peut-être que c'est les Nyatura, peut-être, on donne toujours des apéprises comme ça. Mais moi, je pense qu'au-delà de toutes ces questions-là, avant d'envisager la question de la justice, parce que la justice ne peut pas se lancer dans une action contre inconnu, il faut d'abord connaître celui qui est à la base de tout ça. À ce moment-là, la justice peut se mettre à l'œuvre. Ça, c'est de un. De deux, moi, je pense que c'est un faux problème lorsqu'on dit la restauration de l'État, ainsi de suite. Dit, il n'en est pas question. Le premier intervenant a essayé un peu d'encadrer les choses. Toutes les forces des Nations Unies qui étaient chez nous ici, dans le Kasaï voisin, au Bandundu, tous ces casques bleus-là étaient affectés, principalement à l'est, à Goma, à Bukavu. Or, Beni, c'est une ville quand même importante. Donc, cette ville-là, à mon humble avis, ne peut pas être sans militaires. Et puis, lorsque j'ai suivi donc, les commentaires sur les médias internationaux, on dit que le massacre a eu lieu à quelques accablures donc des postes des FRDC et de la police. C'est comme ça que moi je suis en train, je n'accuse personne, mais je me dis, ça m'engage, est-ce qu'il n'y a pas une certaine complicité de tous ces massacres qui ne se terminent pas à cette partie-là? Et parce que si le gouvernement congolais était aussi vraiment prévoyant, il ne pouvait-il pas arrêter tous ces massacres? Parce qu'aujourd'hui, on vous dit à Beni, il y a tel mort, tel massacre. Et après quelques semaines, le même massacre revient. Comment on ne prend pas toujours les mesures préventives pour sécuriser la population? Il n'y a pas longtemps, on a donné le cas des policiers qui étaient en fuite et qui se sentaient aussi en insécurité. Et nous nous sommes posé des questions. Si les policiers qui ont des armes, qui ont quand même certains moyens pour lutter aussi contre cette insécurité-là, parviennent à fuir, à plus forte raison, la population congolaise. Voilà maintenant, une fois de plus, donc la preuve selon laquelle la population congolaise et vraiment abandonné à son triste sort. Maintenant, la solution, moi je pense que c'est ce que nos amis là des coordinations de soutien civil ont projeté. Ce n'est pas se limiter tout simplement à écrire une lettre ouverte au chef de l'État. Laquelle lettre est un peu flou, parce que lorsque vous analysez la lettre, je ne comprends pas qu'est-ce que nos amis demandent que le chef de l'État fasse concrètement, parce que le chef de l'État ne peut pas se déplacer lui-même avec les armes. Il y a le militaire qui sont là-bas, qui représente le chef de l'État. Moi, j'aimerais que la CPI puisse un peu ouvrir l'œil et les bons pour s'attaquer, parce que nous connaissons quand même quelques groupes armés qui opèrent à l'est du pays. CPI, si la CPI menaçait, si la CPI lançait des mandats internationaux, parce qu'eux sont quand même bien informés que nous autres ici, je pense que ce sera un moyen.
Un moyen. Merci. Merci beaucoup, Maître Adrien. Au-delà de tout, vous estimez que ce n'est pas le chef de l'État qui doit descendre sur place pour aller combattre, mais si la société civile s'adresse au chef de l'État, ils estiment que c'est le commandant suprême des forces armées, c'est lui qui a la vision sur la lutte contre l'insécurité. Mais rappelons quand même, pour les actions, vous l'avez dit, il n'y a pas seulement la lettre ouverte de la société civile. Rappelons quand même, ce matin, vous l'avez suivi sur les antennes de Radio Capi, qu'il y a le boycott des plénières de l'Assemblée nationale par les députés élus du Nord Kivu. Il y a des journées Villemontes qui ont été décrétées à Butembo, les journées des nationales par la société civile dans la zone des Béni, et toute cette mobilisation des internautes autour de cette question. Mais vous estimez qu'il est temps pour la CPI de pouvoir lancer des enquêtes et des mandats d'arrêt, ça peut dissuader les auteurs de ces massacres. Nous avons beaucoup de messages, parce que le débat est très animé sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, qu'on ne pourra pas exploiter tout ce qui a été posté, tous les messages qui sont en train d'arriver. Kairi Matembe Radekalemi dit ceci, tout en soutenant la démarche de la société civile du Nord Kivu, je me demande pourquoi la paix allait se devenir une équation. Pourtant, certaines autorités civiles et militaires que nous avons dans ces pays, qui sont au niveau du gouvernement central, même de gouvernement provincial, ont été dans différentes rébellions. Cela veut dire qu'ils connaissent les circuits de circulation d'armes. Comment ils ne peuvent pas parvenir à maîtriser la situation sur le terrain? Patrick Moukielengue, merci à la société civile pour avoir pris cette initiative. De toutes les façons, ce massacre des Béni prouve à suffisance que le pays va mal et qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État dans cette zone. Chico Baza de Kananga, un musicien a chanté, quand il y a la guerre au pays, tout le monde est malade. Donc même le président lui-même est touché à son intérieur quand il y a une partie du pays qui est menacé et qui est de massacre. Alors, il y a des ministres, des députés, tout le monde est malade, mais la situation, c'est qu'on semble fermer l'œil, bien que les coordinations des sociétés civiles ont adressé une lettre ouverte au chef de l'État. Cela est pur et simple que l'autorité de l'État n'est pas encore instaurée comme il faut dans cette partie du pays. Christian Kasumba, lui, explique, mais pourquoi appeler la RDC Congo démocratique pendant qu'ils ne sont pas des vrais démocrates, quand nous avons vu tout ce qui s'est passé en France et en Belgique lorsqu'il y a eu des attentats, c'est toute la communauté internationale qui était secouée et c'est presque tous les États du monde qui ont fait des déclarations. Mais on se demande comment 1000 personnes peuvent être massacrées sur un territoire et qui est en silence, que moi je déclare un silence coupable. Nous allons garder, nous avons aussi Maître Gaël qui est ici à Kinshasa, mais en attendant, nous avons notre invité qui est en ligne, Honorable Juvenal Mounoubo. Vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue.
Pour les internautes.
Voilà, vous, à quoi, où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à cette situation de Béni? On sait que sur les plans militaires, vous l'avez suivi sur les antennes des radios Capi, qu'il y a cette opération qui a été lancée par les FARDC et la MONUSCO, l'opération Salama, je crois bien. Et bon, ce qui a été dit aussi dans les points de presse hier. Mais sur les plans politiques, vous qui êtes à l'Assemblée nationale, dans la Commission défense et sécurité, où en sommes-nous aujourd'hui avec l'examen de cette question de la sécurité à Béni?
Il faut tout d'abord rappeler que le Parlement n'est pas resté silencieux par rapport à cette question. Il y a une commission qui a été envoyée à Béni. Et un rapport a été produit d'ailleurs. Et la mission a eu lieu pour la surveillance, c'était en octobre 2014. Et cette mission a relevé une première nécessité, c'est d'identifier d'abord ce qui tue à Béni, parce qu'on ne peut pas se battre contre un monstre, il faut d'abord l'identifier. Et c'est qui? Et là, je suis d'accord, et tout à fait d'accord avec la société civile qui vient d'adresser une lettre au chef de l'État, et qui interdit, qui déconseille d'utiliser les concepts présumés. Parce que le gouvernement ne devrait pas continuellement utiliser le concept présumé à des flalos. Il faut que le gouvernement arrive à identifier avec netteté ce qui tue les populations et arrêter cette machine de la mort à Béni. Pourquoi? Parce que Béni, c'est une partie du Congo. Béni, c'est un coin du monde. Il y a des habitants qui vivent là-bas. Et voilà, déjà, ça fait plus de 1000 personnes tuées. Et l'identification, il y a des études qui pourraient nous aider à aller vers l'identification de ceux qui tuent. Et pour établir les responsabilités, il y a par exemple le rapport du groupe d'études sur le Congo. ses rapports avec Jason Sterz, qui est écrit ici et qui a été expulsé, vous vous souvenez. Et là, on épingle aussi la responsabilité des FRDC. On cite les ex-HCTKML, on cite les ex-CNDP. Et tout récemment, ces rapports qui demeurent confidentiels, évidemment, mais dont les extraits sont déjà publiés, il y a quelques fuites par la presse, Reuters et d'autres, et qui citent justement cet officier des FRDC, Mundos, dans ce qui se passe là-bas. Donc il faut identifier celui qui tue ou ceux qui tuent, et toutes les ramifications possibles. Et en plus, la faiblesse des forces armées, parce qu'ils avaient relevé le retard dans l'intervention, l'inaction. Pourquoi ? Parce que parfois les victimes allaient vers les campements des FRDC, les victimes allaient vers le base même des FRDC, mais il n'y avait toujours pas de solution. J'ai suivi les barrios de Monisco, justement, annoncé cette opération. Ça a commencé il n'y a pas longtemps. Nous ne pouvons que souhaiter du citer à une plus opération et nous nous posons des questions. Mais pourquoi ça a traîné? Et FRDC, mon discours de l'ancienne offensive, pourquoi ça a traîné? Et pourquoi ça traîne toujours contre les FDLR, la coopération Monisco et FRDC sur terrain? Alors, au niveau de la commission, c'est une préoccupation partagée. Une préoccupation partagée, et nous sommes en train de réfléchir comment nous pouvons soit, encore une fois, auditionner les vice-premiers ministres, ministres de la Défense, ou alors, et là, comme je l'avais dit lors de l'émission, parce que ce n'est pas toujours facile de faire venir les ministres de la Défense, parce qu'ici, en raison de l'essor du secret, est encore dans les têtes de beaucoup de députés, de beaucoup d'acteurs politiques ici. Et des questions comme de sécurité sont toujours couvertes du sort du secret, alors qu'ailleurs, si c'est des questions qui
doivent être débattus, surtout à une oui, mais Juvenal Monobo, quand on regarde aujourd'hui cette mobilisation sur les réseaux sociaux, le problème c'est que beaucoup d'internautes qui s'expriment autour de cette question des bénis estiment qu'il n'y a pas assez de mobilisation sur les plans politiques en termes d'engagement des gouvernants, des déclarations, des condamnations, des mouvements même au niveau de l'exécutif. Mais on a vu aussi ce boycott des plénières au niveau de l'Assemblée nationale par des députés. On peut dire à ce niveau-là que chacun regarde cette question comme si elle est tellement éloignée, où elle n'est pas une priorité, comme le disait tout à l'heure un internaute, qu'on ne sent pas que c'est une priorité aujourd'hui, parce qu'on ne voit pas cet engouement. On a vu même des déclarations des officiels quand il s'agit peut-être des attentats, comme les uns et les autres l'ont critiqué. Mais pourquoi on ne sent pas cette mobilisation, on ne sent pas ces plaidoyers, que ce soit à l'interne, que ce soit aussi à l'externe, autour de cette question des bénis?
Oui, c'est vrai, il faut faire une analyse au cas par cas, et je suis tout à fait d'accord avec ceux-là qui font ce constat. Et c'est justement ce constat-là qui a poussé les députés, qui nous a poussé les députés élus au Nord-Kivu, à prendre cette mesure de suspendre un moment. Eh bien, c'est justement ça, le fait qu'il n'y a pas assez de mobilisation à l'interne. Il faut le dire, mais il faut analyser au cas par cas. Et en analysant au cas par cas, vous remarquerez avec quoi que le gouvernement n'a pas encore assez fait. C'est ce qu'on attend du gouvernement en termes de mobilisation, on n'y sommes pas encore. C'est vrai qu'il y a parfois, au sein de l'opposition, il y a des voix qui s'élèvent dans les réseaux sociaux. Il y a un grand travail, évidemment, qui se fait à ce niveau-là. Au niveau de certains acteurs de la société civile, et il le fait tant comme dernièrement le docteur Mukwege, au niveau de l'opposition, je le disais, le président Vital et d'autres, ils ont mis à adresser plusieurs messages Twitter dans ce sens-là. Mais côté gouvernement, une grande mobilisation, évidemment, on ne l'a pas encore vu. On n'a pas encore vu, par exemple, une mission gouvernementale, une réunion des crises, par exemple, se tenir plus près de l'endroit où se passent les victimes. On n'a pas vu l'assistance de grande envergure en faveur de ces victimes nombreuses là-bas. Bref, on voudrait cette mobilisation-là. On voudrait même qu'on arrive je ne dis pas qu'il faut absolument décréter l'état d'urgence, mais qu'on agisse évidemment dans cette partie du territoire comme si on était véritablement dans un état d'urgence. Pourquoi ? Parce qu'il y a urgence d'agir.
Voilà. Nous avons Maître Gaël qui est à Kinshasa et à moi aussi à Bukavu. Quelques messages aussi sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Maître Rossi Pumbulu de Kikwit dit l'initiative de la société civile est louable, mais j'émets des doutes quant aux attentes, car on a l'impression que la problématique de la sécurisation des bénis n'est pas la priorité de la communauté internationale qui est interdite. C'est ainsi que nous précisons ces sabotages à travers les réseaux sociaux pour que les uns et les autres comprennent que trop c'est trop. Je me demande quel est le péché commis par nos compatriotes de Béni pour subir un tel sort. Je suis béni, c'est comme ça qu'il termine le message par ses hashtags. Et sur les comptes sur Twitter depuis plusieurs jours. Mpunga Sifonda, c'est la preuve à suffisance que la RDC n'est pas encore une nation au vrai sens du terme. Lorsqu'on voit d'un côté les gens qui meurent, et de l'autre côté c'est la passivité du pouvoir en place, mais je me dis qu'il faut que le gouvernement congolais puisse tout simplement démissionner. Je pense bien que cette question, combien préoccupante, a la responsabilité partagée, c'est-à-dire le gouvernement est responsable, le peuple aussi est responsable d'une manière ou d'une autre, car le peuple allait faire pression sur les autres. Mais dès lors qu'on ne parvient pas à faire pression sur les autorités, comme on a vu, les gens s'est mobilisés pour le procès de Moïse Katumbi à Lubumbashi. On aurait aimé voir aussi la population se mobiliser ici pour la question des Béni. Cela peut pousser les autorités à pouvoir agir. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette question consacrée bien sûr à la situation de l'insécurité à Béni et l'instauration de l'autorité de l'État.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Charlie Passy dit ceci, c'est grave que nous puissions continuer à fêter ailleurs à travers le pays alors qu'il y a des personnes qui sont décimées. Faudrait-il attendre combien de personnes pour décréter un deuil national alors que 17 personnes sont tuées? J'ai vu dernièrement des Congolais écrire « Je suis Paris, je suis Bruxelles ». C'est ça aussi le temps de voir les gens dire « Je suis béni ». Maître Gaël, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Monsieur Simero, bonjour à tous les fidèles de la radio.
Et comment arriver à instaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays?
Oui, merci beaucoup, monsieur Simero, de m'avoir associé à ce débat. De prime abord, je voudrais présenter mes sincères condoléances à tout le peuple congolais et particulièrement à tous nos compatriotes de Béni. Cette situation, monsieur Simero, nous dérange beaucoup. Je suis choqué par la réaction passive de nos institutions face à cette situation. Sous d'autres cieux, comparativement à d'autres cieux, on peut décréter même un deuil national et ces institutions sont mobilisées. Mais quant à notre institution, nous ne voyons pas d'efforts qui sont fournis. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, à qui profitent tous ces massacres auxquels nous sommes en train de vivre à l'est de notre pays? Troisième élément, qu'est fait le Parlement pour pouvoir interpeller le ministre de la Défense en vue de nous expliquer clairement qu'est-ce qui se passe à l'est de notre pays? Quatrième élément, monsieur Pierrot, comme vous le savez, nous avons tous suivi, il y a un rapport qui a été publié. Selon ces rapports, un général
Mais maître Gaël, disons que le rapport de ces groupes d'experts de la Sogine n'a pas le temps à publier. C'est juste qu'il y a deux médias qui se sont procurés ces rapports avant sa publication et quelques éléments sont sortis dans le média pour dire que les rapports n'ont pas été encore rendus publics officiellement par ceux qui l'ont élaboré, maître Gaël.
Oui, disons que le rapport est encore confidentiel. Je poursuis dans mon raisonnement. Au travers de cette situation, cela démontre que notre autorité de l'État n'est pas encore établie sur toute l'étendue du territoire national. Mm-hmm. En quoi consiste cette autorité? Monsieur Pierrot, l'autorité de l'État, c'est de défendre l'intégrité nationale et de défendre notamment les frontières de notre pays. Mais qu'est-ce que nous constatons? Ce qui se passe à l'Est, il y a de massacres. Et nos institutions n'ont pas encore le contrôle, l'État congolais n'a pas encore le contrôle sur l'est de notre pays. Alors moi je pense, à mon avis, il n'y a pas autre solution que nous pouvions donner, à part les solutions qui sont prévues dans la Constitution. Et lorsque vous lisez la Constitution, l'armée est chargée de défendre l'intégrité nationale. Le gouvernement doit mobiliser les moyens de donner à l'armée en vue de traquer toutes ces personnes qui sont en train de massacrer nos compatriotes. Je vous dis, je vous remercie.
Merci beaucoup, Maître Gaël. Vous estimez que tout doit revenir aux moyens que le gouvernement doit donner à l'armée pour pouvoir défendre l'intégrité de notre territoire. Et vous vous étonnez de la réaction passive hein, des autorités, c'est ça votre réaction. Il y a aussi Claude Missa qui nous a écrit depuis Siro qui dit « La population du Nord Kivu vit un terrorisme qui ne dit pas son nom avec des carnages répétitifs alors que l'on se demande si le Nord Kivu est un état autre pour que la RDC diminue des autorités pour sa défense. » Tout ceci, ce sont le fruit des désarmements, des mobilisations, mixages, réalisations, brassages, autant de procédures, mais on n'arrive plus aujourd'hui à contrôler qui sont les vrais militaires dans toute cette bande à l'est du pays. Et il serait mieux, et c'est très étonnant, qu'une rébellion d'un autre État puisse mettre en déroute une armée nationale sur son propre sol. De Baba Massimango de Bukavu, mais je m'étonne souvent du grand silence de notre gouvernement chaque fois qu'il y a des tueries barbares dans ces territoires. Mais pour inaugurer des infrastructures et autre chose, on voit la mobilisation totale du gouvernement. On aurait aimé cette mobilisation aussi quand il s'agit de malheurs qui frappent la population. Amos, vous êtes à Bukavu. Bonjour Amos.
Bonjour Pierre, bonjour à tout le peuple congolais, bonjour à l'invité, l'honorable Juvenal Munubo. Je tiens d'abord à féliciter les différentes analyses de nos prédécesseurs qui sont combien patriotiques par rapport à la situation de honte que nous continuons à vivre nous en tant que peuple congolais. Au fait, j'ai suivi que les sociétés civiles du Nord Kivu ont adressé cette lettre ouverte au chef de l'État. Moi, j'étais d'abord à encourager cette démarche. Mais je me dis, la société civile apparemment, je doute que cette démarche puisse aboutir à une solution escroquée. Et parce que vous allez vous souvenir avec tous les auditeurs qui me suivent que la situation que nous condamnons aujourd'hui à Beni, le carnage que tout le monde décrit aujourd'hui à Beni, a toujours eu lieu avant, même après la présence du chef de l'État en tant que commandant suprême du pays à Beni. Il a lui-même été préféré à Beni et on a tué les gens à Beni. Je me souviens, le premier vice-ministre de l'intérieur Bouchard a été à Beni et on a tué les gens. Moi, je pense que la ce qui se passe à Beni aujourd'hui est grave et inacceptable pour un pays qui s'appelle État, pour un pays qui pense être gouverné. Et je me dis, apparemment, vous avez toujours suivi parce que la situation de Beni n'a pas commencé aujourd'hui. Selon la publication que vous avez faite, vous avez bien démontré que la situation a commencé en octobre 2014. Dans un État responsable, toutes les autorités ont affiché un silence coupable. Du sommet à la base, on sent qu'il y a une certaine léthargie et nous avons des autorités qui se lancent dans des inutiles, dans des distractions, pas pour servir le peuple, mais pour se servir eux-mêmes et sauvegarder leur pouvoir. Malheureusement, il a toujours été reconnu que vous ne pouvez pas régner sur les morts, on règne sur les vivants. Depuis tout ce temps-là, nous avons vu lancer des opérations qu'on a qualifiées de tous les noms qui existent au monde. L'opération Kimia 1, Kimia 2, jusqu'à Kimia 7. On a lancé l'opération Sokola, on a lancé l'opération Mojawetu, Kifuagiro, au Salam aujourd'hui. Mais avec tous ces noms d'extraction, qu'est-ce que nous avons vécu? Parce qu'il faut être humain pour voir ce qui se passe à Beni. Il faut ne pas être humain pour accepter ce qui se passe à Beni. On est en train de déborder les enfants, les mamans, la fête, les vieillards, comme si on négociait de la paix, comme si on négociait des cobayes. Dans un état responsable, vraiment, ça fait mal au cœur, ça dérange. Et je me dis, c'est comme il y a un professeur qui l'a dit. On est en train de voir nos dirigeants aujourd'hui, avec même les avions qu'on a achetés, quand on a lancé un petit travail à une autre 20 km, tout ça vraiment immobilisé, déjà qui chante, qui danse, on a dit l'État en disant non, nous soutenons le chef de l'État même, encore pendant plus de 30 ans. Mais pourquoi on ne peut pas lui demander de le faire aussi pour nos compatriotes qui sont en train d'être égorgés à Beni? Qui veut que la situation qui se passe à Beni
poussé tout le gouvernement à démissionner sans condition aucune. Mais au lieu que nos dirigeants comprennent qu'ils sont incompétents, qu'ils sont limités à garantir ne fût-ce que la sécurité au peuple congolais, je veux dire, on fait échouer en tout compte de l'État aujourd'hui au Congo, dans tous les domaines. Le tableau est noir, mais il fallait qu'ils comprennent que la première chose régalienne de l'État sérieux, c'est la
sécurité. Et ce que vous faites à Mons, on l'a lu d'ailleurs.
Ignorant qu'ils ont échoué.
Voilà, et d'ailleurs, quand on voit la mobilisation sur les réseaux sociaux, les messages que nous avons reçus, c'est ce que les gens vous ont rejoint hein, pour souhaiter que les autorités puissent considérer cette question des Béni comme une grande préoccupation aujourd'hui, à l'instar de ce qui s'est fait ailleurs. Mais pour vous, vous restez un peu dans cette confusion autour des différentes opérations qui ont été lancées depuis plusieurs jours, quelques années aussi. Hein, et vous estimez que pour vous, l'ensemble de ces opérations, c'est trop compliqué à comprendre de l'ordre que la situation des Béni a continué à persister. Adrien, qui nous a écrit de Kinshasa, dit ceci, la situation est devenue comme une série télévisée où les épisodes sont choisis selon les désirs des téléspectateurs. Moi, je l'ai dit, les gouvernements, c'est comme si Béni n'était plus une partie du pays. Comment expliquer que cette insensibilité de l'État dans ces massacres, faut-il attendre 1000 morts pour que nous puissions monter au créneau pour dénoncer, pour crier, pour parler? Alors, ce sont les mêmes qui savent comment on allume le feu et après, les mêmes vont éteindre le feu pour qu'on puisse applaudir. Ferdinand, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Mm-hmm.
Et avant
vous
de pouvoir intervenir, j'aimerais d'abord saluer tous les amis qui ont parlé sur cette situation qui est vraiment très, très édifiante parce que dans un pays où on parle chaque fois des morts comme cela et sans qu'il y ait des solutions à la hâte, vraiment, c'est trop décevant d'abord pour ceux qui ont la charge de diriger le pays. Et quand on parle de toutes ces tueries, moi, je voudrais d'abord poser la question à l'invité. Si les députés, soi-disant de l'Est, qui ont claqué la porte du Parlement, si tous sont de la majorité ou tous sont de l'opposition. Parce que s'il y a des députés, des députés de la majorité, ceux qui ont le pouvoir en main, qui laissent à ce que la situation soit vraiment juste à ce niveau. Et pour pouvoir maintenant claquer la porte, c'est des irresponsabilités. Eux-mêmes devraient d'abord quitter le Parlement. Et avant de quitter, et demander à leur chef de pouvoir démissionner. Nous n'avons pas besoin que chaque fois qu'il y ait du sang des Congolais qui sont versés, et comme cela, et eux, ils sont contents de pouvoir toucher ce qui touche chaque fois. Et vraiment, c'est vraiment trop décevant.
Merci. Oui, allez-y.
Ok, monsieur le journaliste, pour la suite, nous voulons tout simplement dire que même si l'on est vraiment animé d'une mauvaise foi, même si l'on est sanguinaire de n'importe quelle façon, mais s'il y a quand même des bonnes actions qui se passent à travers le monde, lorsque nous voyons qu'un seul citoyen français, s'il est touché par le terrorisme au roi, le président français passe et il fait des déclarations pour réconforter la famille et toute la population. Et chez nous, ça rien n'est dit, et au Parlement, ils sont là pour leur faire bien, mais tout, finalement, nous ne sentons pas sous la sécurité, mais nous sentons tous sous une insécurité vraiment.
Merci. Merci beaucoup, Ferdinand. Vous auriez aimé voir des actions de grande envergure, hein, de démissions, les députés, par exemple, qui boycottent des plénières. Mais là, on a vu que c'est une façon aussi sélective. Hein. C'est juste les députés élus du Nord-Kivu qui ont dit, mais non, on boycotte les plénières. C'est pas tous les députés qui ont décidé de pouvoir boycotter, suspendre les plénières. C'est celles, bien sûr, les députés du Nord-Kivu. Mais vous auriez aimé que ce soit une action collective de tous les députés pour pousser les uns les autres à la démission. Mais vous aurez aussi aimé voir les autorités au devant de la scène pour parler, pour condamner, pour s'exprimer autour de cette question. Trésor Katouba qui a des Bukavu, lui estime que cette question, si on n'est pas en mesure de pouvoir assurer la sécurité de ces personnes, alors autant mieux les laisser et même s'organiser pour se défendre. Et lui, il dit tout ça, c'est l'échec de mixage, de brassage de l'armée. Il y a beaucoup de militaires qui sont ici des groupes armés dans ces provinces, dans ces zones, qui sont issus des différentes rébellions et qui n'ont jamais suivi ni formation, ni véritable brassage au sein de l'armée, et ça, ça rend les actions et les différentes opérations inefficaces dans ces provinces. Ferdinand, vous êtes avec notre Kinshasa, et Jérôme, vous gardez la ligne. Honorable Juvenal Mounoubo, vous avez suivi encore les uns et les autres. Bien sûr, vous l'avez dit, c'est pas toujours facile pour vous, au niveau de l'Assemblée nationale, de pouvoir inviter ou interpeller le ministre de la Défense autour de ces questions. Des fois, ça se débat à huis clos, mais par le fait que tous ces débats, des fois, ça se déroule à huis clos, compte tenu du caractère sensible de l'information et des matières qui sont traitées. Et c'est là ce qui donne l'impression au niveau du public que les questions ne sont pas assez mises au devant de la scène par le pouvoir, les autorités politico-administratives. Quand bien même on voit ce qui se passe au nord, qui vous, le travail du gouverneur des provinces, plusieurs fois on l'a vu délocaliser son quartier général dans ces zones qui sont affectées, mais l'impression générale que ça donne, c'est que les auditeurs, la population se rend compte qu'il y a une passivité dans la manière de traiter, de s'occuper de cette question de l'insécurité à Béni.
Oui, ça, la population a raison, il y a une passivité. Il y a une passivité, ce n'est pas puisqu'il y a des séances à huis clos, que cette impression est donnée, mais d'une manière générale, il faut dire la vérité, il y a passivité. Côté gouvernement, il y a passivité. Côté parlement, le parlement n'a pas encore fait assez. J'ai dit que le parlement est silencieux, mais, parce que le rapport a été produit quelques jours seulement avant et après des massacres. On est en octobre 2014, mais d'une manière générale, le parlement n'est pas exempt en termes de responsabilité d'agir, au fait. Ce qu'on veut, c'est quoi? Et c'est ce que la population demande. Une mobilisation générale sur ce qui se passe à Béni. Et c'est le même ordre d'idée que l'acteur politique, le président de l'UFC, a demandé un dialogue sur Béni. C'est le dialogue qu'il faut maintenant. Un dialogue sur Béni pour savoir qui tue à Béni. Quelles sont les responsabilités? Prendre tous les rapports qui sont publiés, interroger les gens, les victimes, les témoins, établir des responsabilités. C'est ce qu'il faut. Cette mobilisation-là. Et donc, les autorités ne devraient pas suivre ce qui se passe sur Internet, parce que c'est des populations de Congolais au Congo sur le plan international qui s'expriment. Ils devraient avoir un impact. Ils devraient pas fermer les oreilles. Et par rapport à prochaines oreilles, par rapport à ça.
Oui, mais honorable, on sait, chaque fois quand il y a eu des points où vous parlez de la responsabilité, on sait deux fois des rapports, parce que vous avez évoqué ces rapports, on sait chaque fois quand il y a ces rapports entre élaborés par les experts de Nations Unies, on les voit pas, on les regarde pas du même œil avec le gouvernement pour qu'on se les dise quand même. Et plusieurs fois, des fois, il y a des éléments qui ont été contestés par le pouvoir public estimant. Et dans ces conditions, ça sera difficile aujourd'hui qu'on dise, parce que tout le monde le veut, qu'on identifie clairement les auteurs de ces crimes. Alors, ça devient difficile si on n'a pas, au niveau peut-être des experts des Nations Unies avec les gouvernements, la même vision autour de l'implication de qui et qui dans ces cas. C'est ce qui fait que des rapports sont fournis, mais on a tendance à revenir sur les mêmes choses, et puis la même situation perdure à un certain moment.
Oui, justement. Nous pouvons souhaiter, c'est le souhait de tout le monde, en fait, c'est d'avoir un gouvernement qui respecte les droits humains. Un gouvernement qui inscrit la question des droits humains au centre de ses actions. Mais la question importante maintenant qu'on doit poser dans cette émission, est-ce que notre gouvernement inscrit la nécessité d'assurer le respect des droits humains au centre de son action? C'est quand même un membre des Nations Unies, la République démocratique du Congo. Eh bien, un membre des Nations Unies, parce que la société se passe comme ça, en tout cas, la mobilisation d'un point de vue diplomatique, ça devrait être différent. Elle devrait être différente, cette mobilisation, que celle qu'on est en train de voir maintenant là. Évidemment, il y a aussi des autres pays, évidemment, les pays de la sous-région, tous qui ont signé les pactes de Nairobi, la protection mutuelle. Eh bien, il devrait aussi rester vigilant. Qui sait que ce qui se passe à l'Est a des rapports aussi avec peut-être des groupes de l'autre côté des frontières. Nous savons que l'histoire avec l'Ouganda, avec le Rwanda, n'a toujours pas été une histoire pacifique, avec des guerres, ainsi de suite, des rébellions que ces pays ont soutenues ici. Voilà autant de questions qu'il faut se poser, mais quelle est l'action? Qu'est-ce qu'il faut aller voir ça par rapport à ce qui se passe aussi? Et qui fait la communauté internationale? La MONUSCO aussi? C'est vrai que la MONUSCO doit aussi renforcer son action par rapport à Béni. Ça n'est pas normal. On tire à 10 km ou à 1 km et demi, l'armée est là, la police est là, la MONUSCO est là, et qu'il n'y ait pas une intervention, ça n'est pas normal.
Voilà, on va revenir à vous. Vous auriez souhaité que les actions qui doivent être menées, que ce soit du côté de la MONUSCO, du gouvernement, soient plus des grandes envergures. C'est ce qui a été d'ailleurs annoncé, je l'ai dit tout à l'heure dans cette émission, hier, au point de presse hebdomadaire des Nations Unies. Nous avons beaucoup de messages, les débats, comme je l'ai dit, les sont forts sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Marco Bagula, Chisa, dit ici, la situation des Béni actuellement est un signal fort qui nous permet, nous Congolais, qui doit nous remettre, nous Congolais, à nous permettre de nous remettre en question devant nos responsabilités face au terrorisme et tous les crimes dont notre pays souffre depuis plusieurs décennies. Je suis particulièrement ému de la réaction des patriotes sur les réseaux sociaux. Cela a fait entendre nos voix parce que parfois nous nous demandons si réellement notre cri d'alarme se fait entendre auprès de nos autorités. Le peuple des fréquents du pays, ça c'est le message d'Archange Ibamour, qui quitte, est abandonné à son titre sort parce que le fait déjà de comptabiliser les morts par presque chaque mois devait interpeller le gouvernement à fournir beaucoup d'efforts en ce qui concerne le déploiement de forces de défense et sécurité dans cette partie du pays. David Mouzemba, ça prouve l'insuffisance, l'incapacité et le manque de volonté de nos autorités. Il ne fallait pas attendre qu'il y ait beaucoup de morts pour que les gens soient mobilisés, mais quand on regarde l'acharnement avec lesquels on règle les cas des opposants, de ceux qui font des manifestations, on dirait que le pays vit tellement en paix qu'on peut s'occuper de ces cas, alors qu'il y a des cas plus graves qui touchent la vie des paisibles citoyens à Béni. Sylvain, vous êtes à Bounia. Bonjour Sylvain. Sylvain, bonjour. On a perdu Sylvain Debounia. Nous avons Alain qui nous a écrit de Kinshasa. La situation qui se vit dans l'est du pays exige effectivement une mobilisation tous azimuts. Après que nous ayons connu des affres de guerre récurrentes, toute mort de plus est une mort de trop. Il n'est pas un péché d'être congolais pour que ces sanguinaires, ces vertus, tuer même nos enfants. Cette situation relance effectivement la problématique de l'insécurité et singulièrement de la présence de la MONUSCO qui s'est suggérée pour mettre fin à ce genre de situation. L'origine de ces groupes armés remonte de l'excès de solidarité manifestée par nos institutions au lendemain de la crise rwandaise en 1994. Ainsi que, ainsi pour dire que l'insécurité dans l'Est relève plus d'une volonté manifeste de la communauté internationale de se dédouaner de sa responsabilité. Et quant au gouvernement, il doit s'abstenir de nous amener dans les débats stériles et fédérer plus d'énergie pour mettre fin à ce théâtre de mauvais goût qui ne cesse d'allonger nos listes des morts. Bruno Moutela de Kananga, tout en soutenant la démarche de la société civile, nous avons beaucoup de doutes sur la recevabilité de la dite lettre. Néanmoins, le chef de l'État doit connaître qu'il est lié par le serment. Il est garant de la République et il doit accomplir sa mission régalienne car la protection des civils, de la population, c'est une priorité constitutionnelle du chef de l'État. Est-ce que Sylvain est avec nous, qui nous appelait tout à l'heure à Bounia, Sylvain de Bounia? On a perdu Sylvain, on va revenir à notre invité d'un moment à l'autre. Je rappelle encore le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines, 081-890-6315 pour placer votre point de vue. Félicien Kalala, qui est à Kananga au Kasaï central, je vois que l'État congolais a beaucoup de militaires dans beaucoup de nos provinces qui sont pacifiques. Ici, par exemple, dans la province du Kasaï central, nous avons beaucoup de militaires. Je me demande ce qu'ils font. Je le vois tourner à longueur des journées. Pourquoi ne pas les concentrer dans les zones de l'Est où il y a des véritables problèmes? Alphonse, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, c'est Julien.
On vous écoute, Alphonse.
Oui, nous sommes très inquiets vraiment de la situation qui se passe à l'Est de notre pays. Ce sont nos frères qui meurent innocemment. Nous trouvons que les autorités ne tiennent même pas compte. Vous trouverez, ils se débattent ici à tout moment, jour et nuit, pour qu'ils restent au pouvoir. Et pourtant, si nous regardons bien même, en partant des élections qui s'est passées en 2011, le président de la République a été élu majoritairement à partir de l'Est. Et au lieu qu'il se soucie, nous voyons même, comme mes prédécesseurs ont dit, en France, s'il y a même un enfant de 5 ans qui meurt, et le président de la République se tient debout pour dénoncer et parler. Mais ici, chez nous, c'est le contraire, M. J.R.
Est-ce que nous avons des autorités qui ont le souci de la population ou bien ils sont là par hasard? Et puis comme quelqu'un veut devenir par hasard au pouvoir, il doit d'abord voir, amasser, voler, faire tout ce qu'il faut faire, et pourtant ils ne tiennent même pas compte de la population. Nous sommes très inquiets. Et il y a presque 27 députés de l'Est qui se soucient, qui disent que non, ils se soucient de la situation qui se passe à l'Est. Mais il y a une pétition qui se passe aujourd'hui que l'opposition a lancé la motion contre le Premier ministre. Qu'ils aient d'abord signé cette motion. Puisque même le ministre de la Défense ne peut rien faire si le gouvernement ne lui donne pas l'argent. Qu'ils fassent tous pour signer cette motion afin que le Premier ministre parte. Puisque ce sont eux qui sont à la base et ce sont eux qui laissent le passoire pour que les étrangers, le rebelle, le FDLR puissent entrer dans notre pays. Ils n'arrivent pas à maîtriser la situation. Ils doivent partir. Si un ministre descend aujourd'hui à l'Est, vous trouverez toute la population derrière lui en train de chanter, en train de dire n'importe quoi, des éloges pour dire que non, le chef est arrivé. En tout cas, nous sommes très inquiets hier.
Et Alphonse, vous avez raison de vous inquiéter. D'ailleurs, vous aurez souhaité, dans cette démarche de députés du Nord Kivu, vous l'avez dit, 27 sur le 600 députés, vous auriez souhaité voir beaucoup de députés soutenir cette action et vous leur demander, comme il y a une motion qui... Bon, ce sont des initiatives, bien sûr, et vous auriez souhaité voir ces députés se battre pour le changement au niveau même du gouvernement. C'est ça aussi votre souhait, parce que cette question doit vraiment préoccuper les gens comme on le voit ailleurs quand des situations, des citoyens meurent. Maurice, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Bureau Ramizi. Je dois dire ceci. Il y a, je crois, quelques mois, vous avez lancé les débats sur la même thématique. Je me souviens que c'est vous qui avez même présenté l'émission. Mm-hmm. Je disais au cours de cette émission que si on prenait une situation similaire, c'est produire à quelques encablures en fait de la ville de Kinshasa. Prenons par exemple Maluku. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on parlerait même de cette catombe, parce que vraiment ça dépasse même en fait le mot. C'est vraiment un génocide auquel le peuple congolais est en train en fait d'assister impuissamment. Vous comprenez? Alors c'est là des notes vraiment de la faiblesse même en fait de notre système en fait de sécurité, parce qu'on ne peut pas comprendre, parce que le mode opératoire qui est utilisé par ces bandits est différent de celui plutôt qui est utilisé par les terroristes, prenons par exemple de Boko Haram, parce que ceux-là ils viennent en fait en kamikaze, mais ceux-là ils viennent librement et faire en fait tout ce qu'ils font comme forfait et retourner en fait dans leur base librement. Donc cela dénonce, comme je disais vraiment, de cette faiblesse en fait de ce régime. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il n'y a pas de solution face à cette situation. La solution passe toujours par l'alternance au pouvoir. C'est la raison pour laquelle nous disons que nous appelons nos compatriotes de Beni, surtout les familles en fait pleurées, de prendre en fait leur mal en patience pour juste quelques 6 mois qui nous restent pour qu'on puisse en fait dire adieu à ces régimes au pouvoir, parce qu'on ne peut plus rien proposer. Tout ce que les collègues intervenants proposent ici, je pense que vraiment, ils sont en train en fait de passer leur temps inutilement, parce que nous avions commencé à proposer des solutions et des solutions sur cette émission, mais rien n'a été fait. Donc la solution passe par la disparition de ces régimes de triste mémoire que les Congolais ont imposé, plutôt qu'on nous a imposé par en fait l'AFDEL. Voilà ce que je peux dire.
Merci Maurice. Pour vous estimez qu'il n'y a plus moyen de proposer des pistes et des solutions, parce que tout a été déjà dit plusieurs fois dans cette émission, et pour vous tout passe seulement par l'alternance. C'est une autre vision pour vous qui peut amener les changements. Félicien Kindoula de Kinshasa dit, mais on parle de l'instauration de l'autorité de l'État, mais cela signifie quoi exactement? Toutes les structures et institutions sont bien en place dans ces provinces. Tous les animateurs, du gouverneur jusqu'au chef des quartiers ou des villages, sont là. La police et l'armée accompagnent ces institutions. Faut-il une quelconque cérémonie pour instaurer l'autorité de l'État? C'est le questionnement de Félicien Kindoula qui nous a écrit de Kinshasa. Il y a Jean Moubenga qui dit, on en a Hamas, il ne faudrait pas qu'on revienne tout le temps sur la même question, comme si nous sommes les seuls à pouvoir pleurer et que personne ne nous écoute. Du moins, solo de Bukavu, nous emboîtons les pas de la suite civile, mais pour moi, l'idéal n'était pas d'informer l'autorité morale, car tout son environnement est au courant de tous ces problèmes de sécurité dans cette partie du pays, ce qui me ronge les cœurs. C'est de voir le calme avec lequel ces questions sont traitées. Amani Ngouba, Jacob de Massissi, évitons la politique du citron que font les soldats qui sécurisent la ville de Béni. On ne peut pas souffrir éternellement. Même le peuple d'Israël a fini par être délivré de l'Égypte. Arsène Pabubi de Fongourmé, nous sommes vraiment désolés d'apprendre qu'on doit continuer à tuer alors que le pouvoir public nous parle de la paix à tout moment. Voilà. On revient à vous, honorable Juvenal Monobo, placé. Bon, on a écouté les uns les autres. Les cris des cœurs sont là. Notre ami Adrien avait demandé que les débats soient dépassionnés. Mais en un mot, juste pour conclure cette question consacrée à Béni, qu'est-ce qu'on peut dire?
Alors, pour conclure cette solution, il faut identifier l'ennemi, le groupe d'ennemi. Et à travers, pourquoi pas, la justice aussi. Je suis très d'accord avec Jafet qui est intervenu. Il faut changer le commandement. Il faut vraiment s'assurer si le commandement en place tient encore. Il faut permettre des militaires, parce que souvent des militaires qui ont toujours évolué à l'Est, ils viennent à la longue un peu comme des chefs coutumiers. Et il faut savoir, ce n'est pas moi qui l'ai dit pour la première fois, il y a des rapports, des livres qui ont été écrits dans ce sens-là pour dire que les ressources naturelles aussi, en fait, quand je sais que les bois n'est pas très loin des délits, des bois de qualité, est-ce que les bois n'est pas aussi parmi l'objet du conflit là-bas, ou qui alimenterait les conflits, les minerais, plus le nord qui constitue la province minière, et autre chose. Ce qu'il faut faire, il faut améliorer aussi la collaboration entre les FARDC et la population. Et là, les députés nationaux, déjà en octobre 2014, auront mis cette recommandation-là. Pourquoi? Parce que c'est difficile de vaincre des groupes comme les Antifas qui imposent une sorte de guérilla si la collaboration, les relations civilo-militaires ne sont pas améliorées.
Et bien,
rapports aussi entre Kinshasa et New York, donc les rapports entre les FARDC et la MONUSCO, c'est très important à ce stade.
Voilà,
il y a beaucoup de recommandations. En fait.
Merci beaucoup.
Il faut lire les rapports des députés et de lire votre rapport.
Merci.
Et surtout, il faut dialoguer sur Béni.
Merci beaucoup.
Voilà le dialogue qu'il faut.
Merci beaucoup, honorable Juvenal Monobo. D'ailleurs, sur cette question des collaborations, vous avez suivi la modification qui a souhaité aussi qu'elle soit permanente ici avec la société civile. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes député élu d'Ouali Kale au Nord Kivu et membre de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Les secrétaires permanents de la commission Forces armées, bien sûr, dans cette commission Défense et Sécurité. Merci à tous, vous avez été nombreux. On n'a pas eu l'occasion de faire passer tout le monde pour intervenir dans cette question qui était très cruciale pour la sécurité à Béni, au Nord Kivu. Nous vous disons merci pour votre attachement à ces programmes. Merci aussi à toute l'équipe des productions des paroles aux auditeurs. André Mungu était à la mise en œuvre, Pierre Longuembo à la réalisation et coordination. Julie Fézabongonde a été au standard et à la gestion de la page Facebook. Pierre Lamège vous a présenté ce magazine sous la supervision de Martin Sebouzangoué. On retrouve par l'objet du cœur sur www.radio.radiocapi.net. Merci, au revoir.